autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous demander comment repenser la place du numérique dans nos vies. Omniprésent, omnipotent, pour le meilleur comme pour le pire, pourquoi avons-nous délégué nos choix et jusqu'à notre temps de cerveau disponible aux géants du numérique, aux GAFAM ? Parce que ça fonctionne, ça marche, et c'est bien pour ça que nous en sommes devenus dépendants, et même esclaves de toutes les solutions si fonctionnelles conçues par les GAFAM, précisément, pour nous rendre dépendants. Alors comment sortir de cette spirale ? Comment regagner liberté et autonomie ? En soulevant le capot de la machine pour nous intéresser à ce qui peut la faire dérailler, dysfonctionner, c'est-à-dire au bug. Pourquoi et comment faire l'éloge du bug ? C'est le titre de l'essai détonnant de notre invité, le philosophe Marcello Vitali Rosati, professeur à l'Université de Montréal, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, ce formidable empêcheur de penser en rond qui n'est ni technophobe ni technophile, nous montre une autre voie pour être libre. À l'époque du numérique, autour de la question « Pourquoi faire l'éloge du bug ?» Bienvenue pour sortir des sentiers battus.
Les moments où on se trompe, c'est souvent des moments d'ouverture qui vont permettre de faire des découvertes exceptionnelles. Et on parle aussi il y a eu ce livre, Le bug humain, comme quoi finalement on serait condamné par notre comportement à détruire la planète. Et en réalité, l'être humain est beaucoup plus riche que ça. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être qu'en plongeant dans cette science du bug qu'on pourra s'apercevoir qu'on a des capacités insoupçonnées en tant qu'humain. Pas simplement en tant qu'individu, mais en tant qu'humain, et qu'il va falloir faire émerger l'humain dans tout ça. Et je pense que là, il y a un défi majeur pour les années à venir. Donc, je serais très intéressé de savoir comment on peut apprendre de cette approche.
On vient d'entendre l'astrophysicien David Elbaz, esprit libre et curieux de votre éloge du bug, Marcello Vitali Rosati, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris après une année plus ou moins sabbatique passée en Europe, avant de retourner à Montréal, où vous êtes professeur à l'université, titulaire, je l'ai dit, de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Précisons, je l'ai dit aussi, que le philosophe que vous êtes, aussi interdisciplinaire qu'indiscipliné, n'est ni technophile ni technophobe, bien au contraire. Vous n'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis numérique, à ouvrir la boîte noire de nos ordinateurs et surtout à vouloir penser le numérique et la place qu'il occupe dans nos vies au prix, dites-vous, de notre liberté, de notre autonomie. Alors pourquoi faire l'éloge du bug, cher Marcello, pour retrouver justement notre liberté ? Il faut se laisser bloquer, empêcher par des bugs ?
Tout à fait. Le constat initial du livre est que nous vivons dans un monde où nous avons naturalisé un impératif que j'appelle l'impératif fonctionnel. Naturalisé dans le sens qu'il nous semble que la seule manière possible de voir le monde, c'est de répondre à cet impératif. Il faut que ça marche. Et il faut que ça marche, ça veut dire quoi ? Finalement, ça veut dire il faut que nous produisons, il faut que nous produisions vite, il faut que nous produisions dans la meilleure des manières possibles, comme s'il y avait justement une seule meilleure manière. Et c'est là où intervient le bug, qui semble justement aberrant. Depuis la perspective de cet impératif fonctionnel, ce qui ne fonctionne pas est aberrant, j'insiste sur l'adjectif, c'est-à-dire il y a presque un jugement moral. Si ça ne marche pas, ce n'est pas seulement qu'il y a un problème, c'est que c'est mal.
C'est mal, c'est vraiment pas bien.
C'est vraiment pas bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien si ton téléphone ne marche pas. Ce n'est pas bien de perdre du temps, typiquement. C'est qu'impliquent les dysfonctionnements. Donc, c'est ce qui m'intéressait dans ce concept, donc dans les concepts un peu généraux des dysfonctionnements, et plus précisément, et je dois dire, c'est la suggestion de l'éditeur, de Grégoire Chamaillou, de me concentrer en particulier sur cette métonymie du dysfonctionnement que le bug, donc, c'est cette irruption de quelque chose d'autre, qui est inattendu et qui casse tout d'abord, qui casse un flux. Et cette rupture nous permet de voir quelque chose qui, au début, est invisible. C'est cet aspect et cette aspérité-là qui m'intéressait.
Oui, ça nous permet de voir où on en est, justement. Mais quelle est la différence? David Elbaz parlait des erreurs que l'on peut faire. On sait que c'est aussi en se trompant qu'on y arrive. Mais quelle est la différence entre le bug et l'erreur, Marcello?
Bon, évidemment, il y a des similitudes, des proximités entre les deux concepts. Je dirais que le bug est différent de l'erreur parce qu'il fait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, l'erreur s'arrête sur le fait que, bon, OK, il y a une intention et cette intention n'arrive pas. On s'est trompé. Ça n'arrive pas au bout. Et voilà. Le bug est un type d'erreur particulier parce que en fait il fait quelque chose. J'insiste dans les livres sur une expression qui est très utilisée dans le monde de l'informatique, c'est it's not a bug, it's a feature. Ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique, c'est une fonctionnalité, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est une manière un peu ironique qu'utilisent les informaticiens et les informaticiennes pour dire bah en fait mon code ne marche pas, mais finalement il fait quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais pensé, mais finalement cette chose différente a un intérêt. Du coup, je dis, c'était une vraie fonctionnalité qu'on a inventée. C'est-à-dire le
de
bug.
De l'intérêt du bug, en fait, de ce grain de sable qui non, c'est pas, enfin, il grippe le flux, il grippe ce qui est normal et ce qui doit aller vite. Au fond, il grippe la vitesse, l'accélération.
Exact,
aussi.
Il grippe et il a son intentionnalité propre. Ce qui est peut-être un peu moins le cas de l'erreur. L'erreur, ouais, c'est juste, ouais. Justement, ça finit avec. Et en effet, on peut apprendre de l'erreur. Donc, l'erreur bloque, c'est très bien. C'est probablement une forme de bug. Hein. Les deux, je répète, sont très proches. Mais les bugs introduisent cette idée selon laquelle c'est comme s'il y avait un petit démon. J'y reviendrai sur cette idée des démons, si vous le voulez bien. C'est comme un petit démon qui veut faire quelque chose d'autre. Donc, c'est une intentionnalité externe à celle de l'individu qui propose une vision du monde différente.
Et ce qui répond, voilà pourquoi vous vous intéressez au bug, on va y revenir bien sûr, mais ce qui répond effectivement à cette espèce de flux, à cette espèce de normalité, on est tous engagés dans cette course de plus en plus vite. Or, justement, le bug nous propose autre chose, quoi. Enfin, une autre voie ou qui nous montre qu'il y a d'autres voies possibles, alors qu'autrement, on est tellement pressé.
Tout à fait. Il y a, à
et
mon
ça
avis,
marche tellement bien, sinon que c'est ça.
Exact. Le problème de l'impératif fonctionnel est d'une série d'autres concepts qui vont avant, avec et qui sont très présents justement dans la rhétorique des GAFAM, donc des grandes entreprises du numérique, comme intuitif, simple, performant, etc. Tous ces adjectifs avec l'impératif fonctionnel nous font croire qu'il y a une seule manière de voir les choses. Je fais un exemple. Nous utilisons une application Google Maps ou l'application, vous voyez, il y en a toujours pour aller d'un point A à un point B. Et nous disons c'est la meilleure des manières pour y aller. Mais en fait, ça cache le fait qu'il y a une vision du monde derrière. Meilleur par rapport à quoi? Par rapport à la vitesse, très souvent c'est le cas justement. Et on pense que c'est la seule manière de voir. Alors que par exemple, pourrais vouloir aller d'un point A à un point B pour voir les maximums de belles choses ou pour perdre les maximums du temps parce que je suis à l'avance et puis je dois arriver dans une demi-heure, dans un point où en réalité je peux arriver en 5 minutes. Alors fais-moi faire des beaux détours. Donc en fait, ce qui est intéressant du bug, c'est qu'il démasque le fait que cette unité qui nous semble naturelle n'est pas naturelle et n'est pas la seule possible.
Et au fond, cette unité-là, elle est conçue dès le départ par des entreprises, par des opérateurs du numérique, privés pour la plupart, qui ont, eux, qui veulent effectivement que ça aille vite, bien, que ça fonctionne et qui nous vendent du simple, de l'intuitif pour aller dans le même sens.
Tout à fait. Finalement, on est régi par une espèce d'idéologie capitaliste pour laquelle, depuis probablement la première révolution industrielle, cet impératif se naturalise déjà depuis quelques temps, depuis probablement au moins 2 siècles. Et en fait, on croit que la seule manière possible de voir le monde, c'est en effet le fait de vouloir produire de la richesse. Le fait que vouloir produire de la richesse doit être la seule chose, ou de toute manière la chose la plus importante que nous puissions faire. Ça, c'est le point. Donc, c'est cette unité-là qui nous est devenue tellement familière qu'on ne voit pas qu'il y ait d'autres possibilités, même quand nous perdons du temps. Alors ça, c'est
un exemple. Vous aimez bien perdre du temps. Enfin, pour vous, c'est important.
C'est très important.
De justement que notre temps de cerveau disponible ne soit pas juste occupé par nos machines.
Oui, et en général, je pense que c'est une perte de temps vraiment militante qui résiste au modèle selon lequel il faut toujours gagner du temps. Je vous fais un exemple pour me faire comprendre. Dans notre monde, justement, régi par cet impératif fonctionnel, même quand je vais au cinéma pour enrichir ma culture, pour à la fin faire quelque chose qui fasse accroître un capital, et donc je fais enrichir ma culture parce qu'ensuite j'aurai un meilleur profil à vendre à mon employeur. C'est-à-dire on est toujours dans un modèle économique de productivité, même dans des circonstances où en fait on pourrait se dire ben non, je vais au cinéma juste pour perdre mon après-midi, pour avoir du plaisir, etc. Je fais un autre exemple qui me semble rigolo.
Vous êtes très provocateur, on continue, oui.
Un algorithme comme des large language models, ils sont capables de faire un résumé d'un livre très long en quelques phrases, et en effet ils sont très fonctionnels le moment où je veux gagner du temps. J'ai 40 livres à lire, au lieu que les lire en 10 semaines, je les lis en 10 minutes. En fait, quid du moment où j'achète un gros pavé pour aller à la plage je veux perdre du temps. Et si le large language model me fait un petit résumé de 3 lignes, c'est comme si j'avais les spoilings d'une série que je voulais voir
c'est
en entier.
On pourrait dire pareil pour un bon gâteau, qu'on peut prendre le temps de manger. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge du bug ? On en revient à notre question. Je vous propose d'écouter, elle est un grand trinqueur de bugs, le professeur Gérard Berry du Collège de France, qui a fondé la première chaire numérique et informatique. Ce chercheur à l'esprit libre et ouvert, inventeur de plusieurs langages informatiques, milite, alors lui aussi comme vous, pour qu'on ouvre le capot pour un apprentissage réel, une initiation réelle à l'informatique. Il est lui aussi atterré aujourd'hui par l'hyperpuissance informatique dans un seul sens. C'était le titre d'un de ses ouvrages. Je propose de l'écouter, faire lui aussi, mais pas tout à fait comme vous, l'éloge du bug. Gérard Berry.
J'aime bien les bugs parce que c'est toujours très rigolo, les bugs, mais sauf quand ça tue des gens. Le bug, c'est une conséquence de la bêtise de l'ordinateur, c'est-à-dire la bêtise. La bêtise est un mot anthropomorphique, l'ordinateur n'est pas anthropomorphique. Enfin, c'est de la régularité de tout ce qu'il fait. Donc, c'est jamais une erreur d'ordinateur, un bug, c'est une erreur humaine, c'est l'erreur de celui qui a écrit le programme, qui fait la chose qu'il faut pas. Et comme l'ordinateur fait exactement ce qu'on lui dit avec une conscience professionnelle absolue, ce qui n'est pas le cas d'un homme, il va exécuter cette erreur jusqu'à ce que toutes les conséquences en soient tirées, qu'elles soient aussi bêtes que possible, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'humour derrière, il n'y a pas de sensibilité. Et donc, le bug, ça peut faire qu'une fusée crache en vol, qu'une voiture freine pas, ça peut être extrêmement sérieux. Il y a beaucoup de bugs dans les applis de téléphone, il y a des bugs partout, mais on s'en fiche, quoi. Bon, le téléphone s'arrête.
Voilà ce qu'on dit Gérard Berry du bug. Il y a des bugs partout. Je me souviens aussi d'un autre chercheur en informatique, Rachid Gheraoui, qui disait qu'il craignait plus la bêtise humaine que l'intelligence des machines. Quelle est votre réaction à cet éclairage, Marcello ?
C'est tout à fait vrai. Le bug, concrètement, manifeste des instructions qui ont été données par des informaticiens et des informaticiennes que la machine, en effet, respecte et applique. Or, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'entre nos intentions, le moment où nous construisons un algorithme, et ce que nous exprimons en tant qu'instruction, il peut y avoir une différence. C'est-à-dire, je voulais faire quelque chose, mais en fait, je n'ai pas su modéliser, là c'est le point important du modèle, je n'ai pas modélisé exactement ce que je voulais modéliser. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'exemples de bugs simples dans le livre qui montrent que, très bien, pour écrire du code, je dois avoir une représentation de ce qu'est le monde et imaginer tous les cas possibles que devra traiter l'algorithme. Très souvent, ma modélisation est partielle et toujours, pas pas très souvent. Oui. Et ma modélisation est nécessairement partielle. Ce qui fait que quand je donne à l'algorithme à traiter un cas que je n'avais pas modélisé, bah, l'algorithme, il fait ce que je lui ai dit, mais du coup, il traite de façon inattendue, hein, donc que je n'avais pas modélisé, l'instruction. Ça, ça permet, c'est très intéressant parce que ça casse le fonctionnement, évidemment, ça bloque tout. Hein, ça, en même temps, ça me rend immédiatement beaucoup plus transparent mon modèle. Je me dis, ah bah tiens, ce n'était pas juste un outil, c'est un outil qui interprète le monde d'une certaine manière. Et donc, en effet, il n'essaie pas faire ce qui n'a pas été, ou il fait différemment ce qui n'a pas été défini. Et en troisième lieu, justement, il m'ouvre à d'autres possibilités parce que, de fait, il fait autre chose. Le bug fait autre chose. Je fais un exemple dans les livres tout bête, qui est, vous savez, quand il y a, on dit, les caractères qui sautent, vous ouvrez votre navigateur et au lieu que édition avec un et avec accent aigu, vous avez arrobase, point d'exclamation, etc. Ça, c'est dû à un bug, c'est un bug tout simple, hein. C'est que les caractères est encodé avec un type particulier d'encodage, admettons UTF-8, et que cet encodage n'est pas spécifié. Donc en fait, l'ordinateur lit un ASCII, et dans l'ASCII, le « et » avec accent n'existe pas.
Alors, donc, ça, il remplace.
Et donc, en fait, il remplace au pif, parce qu'il ne sait pas à quoi correspond ce symbole-là. Il n'est pas capable de le transformer en quelque chose de visuel. Donc, il a une série de 0 et de 1, et il n'est pas capable de les transformer. Alors, quand je vois ce truc, immédiatement, je me dis, ah bah tiens, dans ma table où j'avais fait les correspondances entre 0, 1 et lettres, j'avais oublié les diacritiques françaises. Ça m'a dit tout de suite quelque chose d'assez intéressant, c'est que le premier encodage qui a été fait, justement, un des premiers, celui de l'ASCII, avait implémenté des symboles comme le dollar, mais pas les avec accent. Donc, ça me révèle quelque chose, par exemple, que ces premiers encodages ont été faits par des anglophones, en pensant que l'ordinateur était une machine anglophone et que les dollars, donc utilisés à des fins mathématiques ou économiques, évidemment, étaient plus importants que la diacritique. Ensuite, on fait d'autres encodages. Donc là, vous voyez, il y a une vision du monde derrière. Ce n'est pas neutre, c'est un choix. Et le bug, qui du coup m'envoie arrobase, point d'exclamation ou je ne sais pas quoi, ces caractères bizarres, bloque le flux. Fait autre chose. Donc, quand je lui donne ces chiffres, il ne sait pas quoi en faire et du coup, il fait autre chose. Et du coup, il me pose des questions par rapport à ma façon de modéliser le
monde. Au fond, c'est ça, le bug, du coup, il révèle. Enfin, il pose des questions, il révèle, il met à nu ce qui est sous le capot de la machine, d'où l'intérêt, comme vous, de savoir de quoi vous parlez quand vous parlez informatique, de savoir coder, d'où l'intérêt pour nous de savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur de nos machines. Parce que finalement, c'est une mise à nu, c'est une révélation de la manière dont c'est fait et de ce qui se cache derrière, finalement.
Exactement. Et cet éloge du bug va complètement à l'encontre des politiques des grandes entreprises du numérique qui cherchent au contraire à cacher l'erreur et à fermer les capots. Donc nous sommes de moins en moins maîtres et maîtresses de nos machines. Nous ne pouvons plus les dévisser, les démonter. D'ailleurs, la rhétorique est celle de dire « je t'empêche de le faire pour ton bien ». Parce que sinon, tu risques de toucher des configurations que tu ne devrais pas toucher, etc. Regardez la même chose, Crawford le dit dans l'éloge du carburateur, un livre qui est assez proche du mien au niveau d'idéologie et des titres, dans lesquels il parle des voitures. Hein. Vous ouvrez une voiture, un mécanicien, une mécanicienne d'aujourd'hui, ouvre le capot d'une voiture,
ne peut rien faire,
si ce n'est brancher un iPad et regarder ce que les constructeurs lui disent. Donc, on a cette opacité, l'opacité qui ne nous montre plus les erreurs. Si votre téléphone ne fonctionne pas, il va juste dire essayez plus tard, c'est lisse, hein, il ne vous donne pas un message d'erreur parce que surtout il ne faut pas mettre les mains dedans. Ouais, et donc le bug justement va à contresens. Donc il révèle une complexité, il révèle que ce qui semblait complètement naturel, neutre, c'est juste un outil, il ne fait que calculer, vous inquiétez pas. En fait, non, il est fondé sur une vision du monde, il l'implémente et il la préconise aussi, parce que c'est ça qui est important.
Il la soutient.
Et du coup, le bug nous permet de la visualiser et peut-être le bug permet, et c'est ça mon hypothèse, l'émergence d'une pensée critique. D'où, pour moi, un lien fort entre bug et philosophie, parce que mon éloge du bug, finalement, est un éloge de la philosophie.
Est un éloge de la pensée critique. Et arrêtons-nous juste un instant sur ce mot bug, Parce que bug, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en anglais, le mot a plusieurs significations, dont la plus courante est insecte. Mm-hmm. Mais en fait, l'origine étymologique du mot renvoie plutôt à une autre idée qui est l'idée des spectres.
Spectre, donc, comme un fantôme. Hein,
comme un fantôme, mm-hmm. tout à fait. Ensuite, le mot prend la signification d'insecte, mais pas n'importe quel insecte, la punaise de lit en particulier. Et ensuite, il est utilisé dans les domaines, pas seulement informatiques, mais bien avant, dans les domaines de la technique, hein, même pour de la mécanique, et disons, l'utiliser pour parler donc, d'un dysfonctionnement technique. Déjà au 19e siècle. Donc, mon hypothèse, pas philologique du tout, je le souligne s'il y a des linguistes ou des philologues qui m'écoutent, mon hypothèse plutôt, imaginaire,
créative,
c'est que c'est justement cette idée des spectres hein, qui arrive plus que l'insecte, qu'on retrouve dans les bugs informatiques. Pourquoi ? Parce que justement, les spectres manifestent sa propre intentionnalité. Donc, c'est justement quelque chose qui fait peur, donc qui va contre ça, la punaise de lit aussi. Hein, ça fait peur, on ne la voit pas, comme le spectre. Et puis, le spectre a cette chose que... Il fait quelque chose. Il a une volonté qui est différente de la nôtre. C'est pour ça qu'il nous fait peur.
Et qui pourrait peut-être nous réveiller autour de la question pourquoi faire l'éloge du bug dans tous ses sens à l'ère numérique. Allez, on continue de s'interroger à l'écoute d'autres sortes de bugs. Alors ça, c'est peut-être plutôt des insectes. Les bugs de Pearl Jam sur RFI. I got bugs in my room. Bugs in my bed, bugs in my ears, there are eggs in my head, bugs in my pockets, bugs in my shoes, bugs in the way I feel about you, bugs on my window, trying to get in, they don't go nowhere. Waiting, waiting. Bugs on my ceiling, crowded the floor. Standing, sitting, kneeling. A few blocked the door, and now the questions. Kill them, become their friend. Do I eat them? Raw, well done. Do I trick them? I don't think they're dumb. Do I join them? Looks like that's the one. I got bugs on my skin, tickle my nausea, I let it happen again, they're always taking over, I see this around me, I see them deciding my fate. Ils sont partout, absolument partout, les bugs avec Pearl Jam sur RFI. Une petite réaction peut-être à ce morceau, Marcello Vitali Rosati.
Oui, merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. C'est assez intéressant parce qu'il propose une hypothèse à la fin. Il se pose la question sur qu'est-ce que je dois faire? Do I kill them? Do I join them? Et à la fin, il dit this is the one. Donc
il va les rejoindre.
Il va avec. Donc c'est un peu cette idée de peut-être du rapport entre humain et bug, ou peut-être on peut aussi repenser ce qu'est l'humain. Pas seulement se poser la question du rapport entre humain et machine, mais c'est reposer la question de est-ce qu'il y a vraiment des frontières ou ces frontières sont poreuse et on peut se retrouver de l'autre côté facilement.
Ah oui, on peut même questionner notre humanité à travers les bugs. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge du bug à l'époque numérique? Question empruntée à votre essai, provocateur, on l'a compris, et très inspirant. Vous êtes donc notre invité, Marcello Vitali Rosati, vous êtes philosophe spécialiste des écritures numériques et votre essai est paru aux éditions de La Découverte ce printemps. Nous avions à l'époque fait réagir une autre chercheuse, Asma Mala, autrice de Technopolitique, quand la technologie fait de nous des soldats. Écoutez ce que nous a dit ici même, dans ce studio, Asma Mala, c'était le 18 mars dernier, on l'écoute.
Sur la question du bug, c'est assez intéressant et c'est même drôle parce que la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, disait que justement les hallucinations de ChatGPT, donc le bug, étaient non pas un accident industriel comme ça qu'on devrait corriger, mais que ça ne serait pas corrigeable et qu'en fait, que ça allait devenir un élément structurel de l'avancée scientifique.
Le bug.
Et ce que dit Marcello, ce qu'il dit en fait, c'est là où il a raison et là où ça pose une question politique plus que philosophique. Ouais. Ce qu'il dit, c'est en fait, le bug, c'est ce qui permet de bloquer la machine, de la rouiller d'une certaine façon, de prendre cette décélération. On peut parfaitement décélérer avec la technologie, c'est une question aussi. C'est ce que je dis, c'est parce que ça va trop vite qu'il faut que l'on décélère. Ça, c'est clair et c'est net. Mais ce qui est intéressant dans la question du bug, en fait, c'est ce qui... Il utilise le bug de façon très intéressante et maligne pour en fait déconstruire la doxa néolibérale du scientisme, de l'efficience, de la performance permanente. L'innovation pour l'innovation comme fin en soi. Or, et c'est là où je suis parfaitement d'accord, et c'est ce que je dis dans Technopolitique, c'est en fait pas la technique qui compte. La technique est un outil et un véhicule. Mais pourquoi faire ?
Et voilà, le problème, c'est peut-être pas la technique, c'est peut-être pas le numérique, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait ou c'est se poser la question de pourquoi faire, Marcello Vitali Rosati ?
Tout à fait. C'est la question du sens. À laquelle, bon, je dirais une petite nuance par rapport à cette question, parce que formulée comme ça, on pourrait imaginer qu'il y a d'une part une intentionnalité humaine et de l'autre part une technique qui doit s'adapter.
Attention, c'est pas ça.
En fait, c'est pas ça, sans être non plus déterministe technologique, mais quand même, il y a un mélange entre technique et intentionnalité qui est tel qu'on ne peut plus distinguer les deux. C'est-à-dire que, justement, une application a une porte une vision du monde et pas seulement conditionne, mais structure la pensée et les actions possibles.
En même temps, vous n'êtes pas technophobe, mais c'est comme ça, c'est un fait.
C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'il y ait une intentionnalité non technologique ou atechnologique. Je ne pense pas... La pensée est toujours une technique. Que je pense avec un stylo à la main, c'est une autre technologie, par contre. C'est contre quoi je crois qu'il faut résister. C'est contre l'idée qu'il y ait une seule technologie. Parce que s'il y a une seule technologie, il y a une seule pensée possible. S'il y a une multiplicité des technologies, il y a une multiplicité des technologies de la pensée. Et moi, je revendique la possibilité de modéliser différentes pensées, différentes visions du monde. Et ce que je peux penser avec un stylo à la main, je l'ai actuellement, même si le public ne peut pas le voir, est différent de ce que je peux modéliser avec un écran, clavier et un format particulier. Et là aussi, il ne faut pas tout mettre ensemble parce que chaque format, chaque écran, chaque clavier porte une vision du monde. Aujourd'hui, à midi, j'étais en train de discuter avec Antoine Fauchier des gabarits de clavier. Hein, de quelle manière le QWERTY plutôt que l'AZERTY, plutôt que différents claviers qui ont été conçus pour écrire de façon plus rapide ou pour implémenter différentes pratiques d'écriture, change en fait notre manière de penser. Je ne pense pas de la même manière si j'ai un stylo, si j'ai un petit cahier, un grand cahier, un clavier d'une forme plutôt que d'une autre. Donc tout ça, ce sont des technologies de la pensée. La pensée est matérielle et du coup, il faut lutter contre cette idée que c'est juste un outil et que donc, il ne faut pas se poser la question justement de quoi faire parce que la technologie de toute manière ne va pas l'influencer. Donc la question c'est quelle technologie, quelle vision du monde, quel modèle, quelle valeur.
D'où l'intérêt d'être à la fois philosophe et de comprendre les questions numériques et de pouvoir mettre le nez dans ce capot-là. Il y a pas mal de questions d'auditeurs et d'auditrices pour vous à ce sujet. C'est finalement, ils sont à peu près tous, ils ont ce pressentiment qu'effectivement le bug peut-être rendre libre, permettre d'arrêter, j'en cite plusieurs, ou de faire une pause. Mais comment faire à l'ère du numérique? Comment faire quand on est, comment échapper à l'emprise du numérique? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une empreinte numérique? Nous demande David Aeustache de Parakou au Bénin. Enfin, comment on fait pratiquement, justement? Quelle résistance pour ne pas être uniquement dans ce moule, dans ce fil conducteur, d'être sous l'emprise, finalement, de ceux qui produisent aujourd'hui le numérique, des grands entrepreneurs privés du numérique?
Alors, d'abord, une première précision. Je ne crois pas que la solution soit une solution individuelle ou individualiste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des héros, comme le dit le Galilée de Brecht, un pauvre terre qui a besoin des héros. Je ne crois pas que chaque personne doive faire un effort énorme pour résister tout seul. Je crois beaucoup au collectif et je crois beaucoup aussi, justement, c'est pour ça que j'en fais l'éloge, au bug comme élément qui vient de l'extérieur. Le bug n'est pas dans mon intention. Le bug fait irruption, il casse, il bloque et il déclenche la pensée critique tout de suite. Donc ça, c'est un peu pour répondre, pour rassurer celles et ceux qui penseraient « Oui, mais j'ai pas du temps à perdre. Hein. » Perdre du temps, évidemment, c'est un luxe. Mais bon, le bug, il s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'il intervient indépendamment des conditions sociales, économiques, etc. Donc, il y a quelque chose de positif dans le bug. C'est que, justement, c'est son intentionnalité qui déclenche quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est la première piste. Et du coup, il faut plus que faire l'effort individuel, peut-être on peut se mettre à l'écoute collective de ce que peuvent proposer ces dysfonctionnements.
Ne pas refuser finalement le bug, se dire c'est peut-être une opportunité. Enfin, regardons ce qui nous montre, ce qui nous dévoile, ce qui nous interroge, ce qui fait surgir.
Et voyons de quelle manière des hypothèses autres, des visions du monde autres, des paradigmes différents de celui de l'impératif fonctionnel peuvent émerger avec le bug et nous pouvons, en tant que collectif, une autre fois, essayer d'adopter, par exemple, plusières pistes. Hein. Une des pistes, c'est les low-tech. Hein, le fait d'essayer...
Les low-tech.
Low-tech. Essayer de choisir des technologies le plus minimaliste possible par rapport à des besoins identifiés. Donc, ne pas se laisser emporter par le fait que j'achète le dernier téléphone parce que, en fait, j'ai cet impératif-là d'avoir un téléphone de plus en plus puissant. Mais est-ce que j'en avais besoin? Est-ce que j'avais besoin, justement, d'avoir de la connexion partout? Est-ce que j'avais besoin d'avoir des notifications toutes les 3 secondes? Est-ce que j'ai besoin d'être connecté 24 heures sur 24? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est finalement, je deviens une victime de
je deviens
ce
dépendant,
paradigme.
Accro. Donc, se poser la question.
Tout à fait. Et le bug peut être l'occasion pour, justement, mettre en question ces besoins et peut-être revenir un peu à l'arrière ou beaucoup à l'arrière dans certains cas.
Autour de la question pourquoi et comment faire l'éloge du bug à l'époque numérique, il y a aussi sur Internet notamment des joueurs de jeux vidéo. C'est même une communauté en pleine expansion, les speedrunners qui, eux, adorent les bugs, qui les cherchent, qui les traquent, qui les classent. Pour eux, ce sont des objets esthétiques qui vont leur permettre de se réapproprier l'environnement numérique dans lequel ils évoluent. Ces joueurs, ils s'appellent donc des speedrunners parce qu'ils s'affrontent et c'est à celui qui terminera le jeu vidéo le plus rapidement possible en utilisant précisément toutes les possibilités laissées par le développeur, y compris donc les fameux bugs. Nicolas Pichon-Lovenbruck, jeune normalien qui était en stage avec nous, avec son complice Victor Demar, ont rencontré l'un de ces speedrunners en plein devant son écran, Martin Brochard, alias Haïtienne, dans sa communauté speedrunner depuis 2017.
Finir un jeu en moins d'une demi-heure, ça paraît impossible. Pourtant, une quarantaine de personnes dans le monde ont déjà réalisé cet exploit. Ce sont des speedrunners.
Le speedrun, c'est une dinguerie. Here we go!
Alors le speedrun, c'est la pratique de vidéoludique de finir un jeu le plus rapidement possible ou d'accomplir un objectif dans ce jeu le plus vite possible. Alors la genèse de son existence est très difficile à tabler puisque ça existe depuis, en tout cas avant 2010, ça c'est sûr, ou tout du moins depuis que des personnes tentent via des jeux vidéo d'accomplir justement une partie le plus vite possible. Les glitches ou les bugs, tout simplement, sont une faille dans ce qu'avait prévu le développeur lorsqu'il a conçu son jeu. Il a omis une façon de fonctionner qui peut servir aux joueurs pour potentiellement accomplir les challenges ou bien justement la vitesse dont on a parlé précédemment. Ça vient tout simplement d'une erreur de programmation souvent qui permet d'outrepasser les limites conceptuellement prévues par le développeur. Si le développeur met en place une règle comme quoi on ne peut pas traverser un mur, si malheureusement à un moment il a mal joint deux murs, ça peut arriver, l'erreur est humaine, hein, si un joueur parvient à l'exploiter pour traverser justement un niveau d'une façon dont il n'était pas censé passer, c'est un bug. Ils sont même catégorisés, ils ont des appellations. Utiliser sciemment une erreur ou un bug, en tout cas pour accomplir un objectif, ça permet vraiment des fois de jouer un jeu complètement différent. Également de créer une interaction entre le joueur et le jeu qui n'avait absolument pas sa place dans ce qui était encore une fois prévu par le concepteur justement de ce jeu. Déjà, quand vous jouez un jeu vidéo pour vous adonner à la pratique qui a été conçue pour vous, par le développeur, quand vous voyez une erreur ou un bug, on va veiller à ne pas l'exploiter. Enfin, ça va être le réflexe humain de base de se dire c'est pas censé fonctionner comme ça, je vais recommencer, j'étais pas censé être là.
C'est quoi un bug intéressant ?
Les bugs les plus intéressants sont de très loin ceux qui sont les plus visuels. Traverser un mur, par exemple, ou sortir des limites du jeu. Et souvent, c'est un peu comme passer dans les coulisses, justement, d'une scène de théâtre. On voit tout ce qu'il y a à l'extérieur, le décor et tout, etc. Rien visuellement n'a été prévu pour accompagner le joueur, par exemple, dans un environnement 3D, à sortir des limites du jeu. Et là, graphiquement, c'est très intéressant, en fait. D'autres bugs intéressants sont des bugs qui utilisent des mécaniques prévues pour faire quelque chose, pour en faire quelque chose de totalement différent. L'exemple le plus probant étant ce qu'on appelle des damage boosts ou des propulsions via les dégâts. Ça demande justement de penser, on va dire, le fonctionnement de penser un design complètement hors de ce qu'il était en fait prévu à la base. Certains, beaucoup d'ailleurs, de ce qui est trouvé des fois est complètement inutile du point de vue de la vitesse. Ça permet de faire quelque chose des fois qui est visuellement par exemple beau, mais ça des fois ça ne permet rien. Des fois ça va juste littéralement planter un jeu, de trouver on va dire un bug qui produit tel ou tel effet. Donc oui, clairement l'utilisation de bugs permet de, comme je l'ai dit, de jouer à un autre jeu, de donner une seconde vie en fait au jeu.
J'imagine que vous voulez réagir, Marcello, à ce témoignage, à cet éclairage particulièrement créatif donc de Étienne dans sa communauté de speedrunners.
Oui, parce que c'est vraiment génial. Hein. Je ne connais pas Étienne, mais c'est vraiment super ce qu'il raconte et complètement dans l'essence de mon éloge. Je ne connaissais pas, je dois dire, les communautés des speedrunners. Donc, vous m'apprenez encore quelque chose, comme toujours.
Ce n'est pas nous, hein. C'est Nicolas Pichon-Lovenbruck. Hein. Ce sont des jeunes qui pouvaient faire ça.
Que je remercie aussi.
Victor Demar. Voilà.
Et donc, on est complètement dans l'idée de « it's not a bug, it's a feature » dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, exploiter quelque chose de non prévu vu par les personnes qui ont programmé l'environnement ludique dans ce cas. Et en fait, ça donne plusieurs choses dont je voudrais parler. La première, c'est une connaissance très approfondie et très profonde de l'environnement. Le fait de rechercher les bugs est quelque chose qui mène à une connaissance très précise de l'environnement des jeux et aussi de ses présupposés techniques. C'est-à-dire, il faut avoir l'idée de, il y a un mur qui doit être joint. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être apparent dans les jeux, donc qui est complètement transparent dans le sens où on ne le voit pas. Hein. C'est justement la petite cuisine. Il ne faut pas se salir les mains, on regarde, etc. Et on reste, et tandis que ces communautés justement vont chercher cette connaissance approfondie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, cette connaissance approfondie est utilisée pour un détournement. C'est-à-dire, on ne fait pas on utilise un environnement technologique, mais pas pour faire ce que cet environnement technologique veut que nous fassions.
Hein.
Donc, c'est vraiment l'idée un peu situationniste, hein, à la Guy Debord, hein, du détournement.
Ouais,
j'utilise quelque chose pour faire l'inverse, souvent, de ce qu'il m'est demandé. Donc, je ne suis pas censé passer un mur. En fait, je l'utilise pour passer le mur. Et il y a un troisième point qui est très intéressant, qui a été dit, que je voudrais commenter. C'est l'idée... Ce n'est pas la vitesse, le but.
Ouais,
Là, il y a dans cette recherche quelque chose probablement d'esthétique, on va dire,
ouais.
Ou en tout cas, dont les valeurs et les motivations sortent complètement du paradigme productiviste. Ce n'est pas pour... Oui, peut-être parfois je peux le faire pour gagner le jeu plus vite, mais en fait, le but, c'est découvrir des choses. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que je rapproche de la scolaire grecque, hein, donc de cette oisivité contemplative, active, parce que c'est pas une oisivité de rien faire. Au contraire, c'est une implication, c'est une oisivité militante. Il faut faire des efforts hein, pour rentrer là-dedans.
Pour aller dans d'autres chemins, découvrir d'autres chemins, ouvrir d'autres voies. C'est dans l'esprit et dans le virtuel et dans la réalité. Enfin, c'est ça aussi.
Tout à fait. Donc, c'est une oisivité militante qui permet de dériver, justement. Et ces dérives, pour voir encore citer Guy Debord, nous permettent de voir le monde d'une autre manière, de mettre en question, donc d'avoir un esprit critique sur les modèles et les visions du monde les dominants, et en fait de mieux comprendre. Il y a cet enjeu de compréhension et donc de maîtrise de l'environnement technologique et des idées, des idéologies, des visions du monde et des valeurs qu'il porte.
Sacrément subversif, le bug, mine de rien. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge des bugs et comment regagner justement notre liberté à l'ère numérique ? On continue de s'interroger à l'écoute d'un morceau extrait de la playlist du mois sur RFI, le bien nommé Troublemaker d'un des plus célèbres auteurs, compositeurs, interprètes du Nigeria, Rema, sur RFI.
Boy, don't be. How many insults I go take up? Just your shit like I'm Jago. I've been like this straight from the get-go. I know they take, I see lose bread. If you miss your show, you know see me, I go take. I'm up my money cause I promote a desperate. Me go no vest, I'm a money be my money. Oh, many my gun, be the people I read. Oh, my eye red, but the green, that's the yellow. Some call me IB, some call me YOLO. Keep who I really be on a low low. Every penny they touch in my circle, I depress my ups, make them restless on schedule. Them say I be troublemaker, I go disturb everybody. Leaving me, leaving me, leaving me, make I do my own. No man don't judge me, make you say breezy. You better say they know from me nobody. I go still pass everybody, even though say una use and trash. Una dig back or rupa, I dig back or rupa. You better relocate, I dey come closer. Even if in a red, I go tackle. She be na pex, you go peck. I'm aware me, I know they talk, but try me first. Better save your money, this game no be by best friend. For my first land since I was 17, you know steady grinding. Nothing when you go show me, where go really surprise me. I'm a man in my gun, be the people I read. Oh, my eye red for the green, that's the yellow. Some call me ivory, some call me holo. Keep who I really be on a lolo. Day and night, so my guys, they every penny they touch in my circle. Why they pass my ups, make them restless on schedule. Them say I be troublemaker.
Rema de Lagos à Paris avec Troublemaker dans la playlist du mois sur RFI. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge du bug à l'ère numérique ? Nous sommes en compagnie non pas du Troublemaker, quoique, d'un formidable empêcheur de penser en rond, le philosophe Marcello Vitali Rosati, professeur à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire d'écriture numérique du Canada, autour de son essai subversif et inspirant « Éloge du bug, être libre à l'époque numérique ». Mais comment ? Nouvelle question pour vous, Marcello, soulevée par mon confrère François Lassagne, rédacteur en chef du mensuel Pour la Science.
Dans l'analyse de la technologie, de notre rapport à la technologie, de nos aliénations éventuelles à la technologie, on n'a pas attendu les années 2020. Il y a eu de nombreux travaux sur ça, notamment Ivan Illich qui... notamment avait un concept assez éclairant. Il parlait de technologie conviviale, c'est-à-dire une technologie dont on garde la maîtrise. Et c'était à double sens, c'est-à-dire que l'humain doit en garder la maîtrise. Et par ailleurs, l'objet de la technique, par exemple, imaginons que ce soit un robot, même si Illich à l'époque ne parlait pas de robot, mais si c'est un robot, alors il faut que la manière dont on l'utilise ne lui nuise pas non plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui imposer des choses. Donc c'est une notion assez compliquée. La question qu'on peut se poser, c'est dans le numérique, aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler une technologie conviviale, dans l'idée que les technologies dont on dispose, même si elles sont facilitantes, appétissantes, sans doute au sens d'Illich, n'ont absolument rien de convivial.
Pas convivial du tout, vous en conviendrez. Alors, comment répondre à cette question, Marcello Vitali Rossi, Rosati, de François Lassagne ?
Donc, d'abord, un petit mot sur le fait que, en effet, la critique à une certaine forme de technologie est une critique qui a une longue histoire et qui n'est pas du tout récente. Et Illich en fait partie. Mais on a eu des philosophes comme Ellul, par exemple, ou plus récemment, si on pense aux travaux de Morozov, qui vont dans le sens de critiquer justement les technologies des GAFAM. Si on pense à tous les travaux publiés par la maison L'Échappée, qui vont dans un sens d'analyse critique des technologies, mais qu'on pense à Gunther Anders, qu'on pense à Bernanos en France, hein, la France contre les robots, ou qu'on pense à Kittler en Allemagne. Bon, enfin, il y en a beaucoup de noms et Illich en fait partie. Alors, Illich, justement, parle de quelque chose de semblable à ce que je nomme l'impératif fonctionnel, c'est-à-dire il parle du monopole du mode industriel de production.
C'est ça. D'une seule manière de voir.
D'une seule manière de voir.
Efficace.
Exact. Voilà. Et en fait, quand il parle d'outils, et ça c'est intéressant aussi à souligner, il n'entend pas évidemment les iPhones qui n'étaient pas son objet polémique à l'époque, mais il a une conception très large. Les outils pour lui, par exemple, c'est les écoles et les hôpitaux. Hein. Donc une conception très large des outils. Alors, ce sur quoi est son concept de convivialité, c'est justement que normalement, l'outil, l'homme est la matière, dit Illich, que travaille l'outil. Et l'outil convivial, c'est celui qui respecte, qui est plutôt, dont l'homme est le maître, hein, qui est au service.
C'est ça, qui soit au service. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, dans nos technologies numériques, notamment, je pense à un nouveau logiciel, une nouvelle version logicielle, que c'est comme si on devait nous s'adapter à la machine, alors que ça devrait être l'inverse.
Et alors, si je peux, ma vision est légèrement différente de celle d'Illich, parce que justement, je ne pense pas qu'il y ait un nous et un eux, hein, qu'il n'y ait pas d'un côté les êtres humains, de l'autre côté les technologies.
D'un côté, c'est lié, on est entremêlés.
On est entremêlés, et en fait, le point, ce n'est pas tellement d'avoir que nous avons notre intentionnalité et il faut trouver la technologie qui serve notre intentionnalité. Ouais. C'est plutôt qu'il y ait une multiplicité d'intentionnalités possibles qui s'implémentent dans une pluralité des technologies et d'environnements, disons, techno-humains différents. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé depuis Illich. On ne dirait pas aujourd'hui l'homme et la machine. Hein. Donc, il y a une essentialisation de l'être humain qui, d'ailleurs, et c'est les temps, hein, ce n'est pas du tout Illich, mais aujourd'hui, on entend aussi des sexismes qu'il y a derrière, comme si l'être humain était seulement une chose. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse...
Donc on est en interaction, c'est les humains et en interaction avec tous les non-humains.
Et ce que nous définissons humain, finalement, dépend de ce que nous définissons machine. Dans mon livre, je fais l'exemple du rôle des femmes, justement, dans l'informatique. Hein. Les machines ont été souvent mises du côté des femmes ou les femmes des machines. Il y a un article très intéressant qui raconte l'histoire d'ELENIAC qui s'appelle « When computers were women ». Donc, le mot « computers » a été utilisé, donc « ordinateur » a été utilisé d'abord pour désigner les femmes qui faisaient les calculs.
Les calculatrices,
c'est-à-dire, ce sont des tâches, les calculatrices. Des tâches auxquelles on n'attribue pas des valeurs symboliques et donc qu'on laisse à des subalternes ou à des machines. Là, vous voyez que l'enjeu est justement celui de définir une frontière qui fait la différence entre ce à quoi on attribue une valeur symbolique, l'homme, au masculin, et de l'autre côté, c'est à quoi on ne l'attribue pas. Donc, selon moi, une technologie conviviale est une multiplicité de technologies dont les paradigmes différents, hétérogènes et multiples sont transparents et on peut comprendre.
Sont transparents et on peut comprendre et on peut faire jouer tous les liens qui nous lient et qui nous relient. Merci infiniment. Malheureusement, l'émission se finit, mais vous allez revenir, j'espère, Marcello Vitali Rosati. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu en direct, nous éclairer, nous ouvrir à d'autres possibles. On en a tant besoin en ce moment. Je ne saurais trop conseiller la lecture de votre éloge du bug. On l'a vu, c'est philosophique, numérique, ça pose plein de questions et c'est évidemment subversif, mais aussi joyeux et créatif. C'est paru à La Découverte et c'est sous-titré « Être libre à l'époque numérique », un ouvrage indispensable. C'est dit, à bientôt, Marcello.
Merci beaucoup, à bientôt.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h. Temps universel, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Nous serons en compagnie de mes confrères et consœurs de la presse scientifique, vous le savez, qui viennent avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous. Merci pour votre curiosité et pour votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et voire, on l'a bien compris, à tous les bugs possibles. On ne sait jamais. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des infos.